je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond.
Que demeuriez les vieux écouteurs de la radio Vickets? Nous sommes tout début de l'année et le tout premier mercredi du mois de janvier 2023. Et ce matin, comme le susurre notre générique, j'ai fait une place à vous tous, nos fidèles auditeurs, en vous souhaitant chaleureusement une bonne année, qu'elle soit remplie de surprises, de bonheur, d'amour et d'amitié, et de vous donner les moyens d'aller toujours vers l'excellence. Si, si, on peut y arriver, croyez-moi. Alors ce matin, avec cette belle musique, je reçois une belle personne, le cœur sur la main de générosité. C'est un grand gastronome étoilé. Et oui, ici, on reçoit que du lourd à notre micro. C'est Alain Kleinbeck. Merci d'être là, à mes côtés, dans ce studio. Alors, bonne année, Alain.
Bonne année, André, et puis bonne année à tous, et merci pour ton accueil.
Bah écoute, je suis ravi de partager le micro avec toi. Alors, dis-moi, Alain, tu es un enfant de Lingolsheim, tu jouais à Thierry Lafront dans les sablières et les gravières.
Mais oui, quand on était gamin, dans les montagnes de betteraves et tout ça, on jouait. Déjà le légume.
Les légumes déjà, et en fait c'était un petit paradis notre enfance.
Oui, hein? Ah oui, c'était maman au fourneau pendant toute la semaine, papa qui travaillait, il était sur la route, et quand il rentrait le samedi, c'était la cuisine avec lui, et puis tous les copains du quartier qui venaient à la maison, parce que maman avait le cœur sur la main, et puis elle était là quoi.
Mais avant de parler de cuisine, je crois que tu voulais être tapissier décorateur.
Oui. Le côté un peu artistique du tapissier décorateur m'emballait beaucoup. Et c'est vrai que suite à des circonstances, un mauvais concours de cuisine dans les scouts. Et puis voilà quoi.
Pourquoi tu leur as fait quoi aux scouts?
J'aurais fait un bibliscus et puis il était trop sucré, trop salé. Alors on m'a dit rajoute du sucre, ça va. Et puis c'était vraiment affect.
Ah,
oui. Et ils se sont bien moqués de moi et ça m'a touché dans mon profond.
Dedans de toi?
Ouais, complètement. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mes parents, voilà, je veux être cuisinier et un beau jour, je leur montrerai.
Que tu sais cuisiner.
Voilà.
Et alors, comme tu parles d'un beau jour, tu as décoré les assiettes brillantes des prestigieux restaurants étoilés en France.
Oui. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec un qui fut mon mentor, Alain Passard, à Paris. Et c'est vrai.
C'est pas rien, ça.
Non, il m'a vraiment donné le goût du produit. Et il m'a toujours dit, tu vois, Alain, le produit, tu le regardes avec tes yeux, tu le sens avec ton nez, tu le goûtes avec ta bouche et tu le travailles avec ton cœur.
Ah, c'est beau ça. C'est
et le résultat dans l'assiette, il est là quoi. On ne peut pas faire la cuisine sans avoir à raconter une histoire.
Oui, c'est très beau. Et alors un jour, tu jouais aussi au piano debout à côté d'Antoine Westermann au Burhiesel.
Oui, au Burhiesel où j'ai passé un peu plus de 5 ans, où je suis arrivé, il avait une étoile. Et je suis parti, il avait sa troisième. Et ça reste aussi mon deuxième papa, quoi, parce qu'il a toujours été présent dans tous les moments, les moments de joie, de peine. Et puis encore aujourd'hui, il est toujours là.
C'est un homme très humain,
c'était quelqu'un
de chouette. Et puis il avait un plat de grenouilles avec des schnitzelspätzle.
Oui, les cuisses de grenouilles et ces schnitzelspätzle que fait encore Eric aujourd'hui.
Son fils continue.
À chaque fois que je le mange, je me retrouve à cette période où on a créé ce plat avec toute l'équipe, quoi, parce qu'Antoine partait du principe que seul il était rien, mais qu'avec toute la brigade, il pouvait déplacer des montagnes. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, dans ma vie à moi, je reproduis ça parce que voilà, c'est un chemin, on n'arrive pas à le tracer tout seul. Il faut qu'on soit accompagné avec des rencontres, avec des tas de choses.
Je crois qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul.
Bah,
ça,
tout
c'est
à fait.
Aussi une phrase que j'aime beaucoup dire.
C'est vrai. Et tu as raison.
Et alors, dis-moi, Alain, un moment, alors tu allais. C'est un beau geste de faire plaisir aux autres.
Ah ben je pense que là, de toute façon, la cuisine, on l'a fait pour les autres. Quand on invite des gens ou quand on... Même casser une croûte, on se retrouve, on prend un bon pain, on va prendre une bonne charcuterie, un bon fromage, une bonne bouteille. Mais on le fait toujours aussi pour faire plaisir aux autres. De toute façon, tous les moments de la vie les plus importants, qu'ils soient tristes, heureux, se font autour d'une table.
Exactement.
Les rencontres,
des amis,
tout. Et ça peut... faciliter énormément de choses, le fait de faire un bon repas.
Je me souviens qu'on avait fait aussi un reportage avec Monseigneur Grallet, que j'aime beaucoup, qui me disait « Faire à manger avec tes amis, c'est comme une prière, c'est prier ensemble. »
Oui, ben c'est un partage, de toute façon. Je veux dire, quand on est cuisinier et qu'on travaille le produit, on redonne vie au produit... À un moment donné, à table, on va échanger, on va partager, on va transmettre ses émotions aux invités, aux convives. Et il y a des échanges qui se font là-dessus, quoi.
C'est magnifique. Écoute, mon ami Lucas, on peut aussi mettre une petite musique, là, notre Alsacien KPO. Tu peux nous mettre ça avant d'aller sur autre chose ?
Sur mon cartable, j'ai dessiné mes plus belles idées. Mamma, il mondo fuori mi fa paura se non ci sei. Vedi che la gente non fa attenzione, quante bugie si raccontano gli altri. Ma perché tutto questo oggi io non lo so. Et moi, y'a la vie qui m'attend, dans la cour des grands, je ne suis qu'un enfant. Y'a la vie qui m'attend, et moi je prends le temps, je préfère rêver. Y'a la vie qui m'attend, le tumulte des grands fait pas rêver.
Qu'est-ce que c'est beau, hein?
Oui. Ah, la mama.
C'est magnifique. Ouais. Et tu sais que ce monsieur, Claudio Capéo, il vient de Cernay.
Oui,
il
c'est
a
un
grandi,
Alsacien.
C'est un Alsacien. Et il y a quelques années encore, il était avec sa brouette sur des chantiers, ouais. Cassé des murs. Et regarde où il est aujourd'hui.
Non, mais
c'est devenu quelqu'un d'exceptionnel, quoi.
Il transmet d'émotions. Ah, ouais. Il a une voix qui vous transperce. Et les mots ont juste une belle valeur sur ses chansons.
C'est une chanson qui nous touche, hein, qui nous touche de l'intérieur. Ouais.
En plus, les mamans, oui.
Les mamans, on en a tous.
Qui sont formidables.
Et tu sais que je l'ai rencontré il y a quelques jours à Guebwiller,
oui.
Avec André Manoukian. Il a chanté au piano, là, dans la nef. On a fait une émission qui va passer dans quelques jours, là, avant Noël, le 17 et 18 et le 25, au plan national. Donc, ça va être très, très sympa. Ça va être chouette. Mais tu parlais de ta maman, parlais des mamans. Effectivement, les mamans. Je crois que c'est les meilleures cuisinières du monde. Elles ont toutes les étoiles dans le cœur. Elles sont fabuleuses, quoi.
Ah, les mamans, c'est la transmission de beaucoup de choses. Hein. C'est l'ouverture, toujours ces souvenirs où quand elles ouvraient le frigo, elles disaient « qu'est-ce qu'on va manger ?» Et puis tout d'un coup, elles nous sortaient un plat, et puis des plats traditionnels. Et c'est vrai que comme j'ai été bercé par ma maman qui venait du Haut-Rhin, avec la cuisine, la gastronomie du Haut-Rhin, les tourtes, les menus Marker, les rugles Bragadi, et d'un papa qui venait du nord de l'Alsace.
Ah, c'est beau le nord de l'Alsace.
Voilà,
c'est magnifique, j'adore le nord de l'Alsace.
Toutes ces recettes, ouais. de Schniederspätzle, là, de voilà, donc
baigner
dans
porc
cette gastronomie.
Pardon,
oui,
l'estomac.
L'estomac de porc, quand on faisait les... Ah oui, ça,
c'était
grandiose.
Ça.
Et puis les cochonailles, ouais. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tous ces trucs-là.
Tout ça, c'est excellent, ouais, c'est vrai. Mais raconte-moi un petit peu un plat de ton enfance, c'est quoi?
Alors, le plat qui est un peu référent chez moi, c'est les boulettes de viande avec la sauce à la crème que faisait papa. Il s'y mettait déjà le samedi.
Des fleischknepfle, tu veux dire?
Non, les fleischknepfle. C'est les boulettes de viande qui sont pochées dans un bouillon. Alors, ça avec du bœuf et du pain.
Wow.
Et ensuite, on fait une bonne sauce blanche comme les bouchées à la reine. Et on servait ça avec des nouilles à l'alsacienne. Et ouais, c'est des parfums. Et puis bon, maman, c'était beaucoup plus la tourte. Alors la tourte de la vallée de Munster, faite par maman, c'est... Ah, c'est...
Mais
juste magnifique.
Ouais, t'es presque ému, là.
Ah ouais, parce que... Elle m'en faisait régulièrement pour me dire merci, quoi.
Ouais, une maman, c'est extraordinaire. Moi aussi, je pense souvent maman étoile.
Ben oui.
Et c'est vrai, on n'est pas là pour larmoyer, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important et on grandit avec ça. Je crois que on a l'amour de nos mamans qu'on porte en soi. Quoi.
Ah ouais, ouais. Mmh. Moi, bon, c'est vrai, je l'ai perdue il y a peu de temps et puis je la sens toujours derrière moi.
Elle est toujours là. Une maman est toujours là. Moi, la mienne est partie il y a une dizaine d'années. Elle est toujours à côté de moi. Quoi.
Ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Et alors, c'est vrai que si on peut parler un petit peu de ton intimité, ta maman est partie, mais par contre, tu as une grande surprise.
Quelque chose
de,
oui, quelques
un cadeau
jours
du
après.
Ciel. Quelques jours après.
Deux jours après son départ, ma fille a mis au monde une petite fille.
Waouh.
Et qui porte le doux prénom de ma maman. Donc c'est une petite Colette. Et ça nous motive, ça nous donne toutes les étoiles dans les yeux. C'est un vrai bonheur. Voilà, donc une qui est partie, une autre qui est là et qui prend le relais. Et puis voilà, c'est le cycle de la vie et c'est ainsi qu'on peut avancer parce que cette petite Colette qui est là, elle me remplit de joie.
Tu lui parles un peu en alsacien des fois, petits mots.
Alors des petits mots, des petites chansons en alsacien que je me souviens encore quand ma grand-mère me chantait. Voilà. Et puis, mais elle va être éduquée dans l'histoire de notre famille en Alsace.
Ah, c'est beau ça, ce que tu dis. Ouais. Bah Lucas, on va se mettre une petite musiquette là, mais nous voir un petit peu du Chris Isaak, une belle petite musique qui va nous détendre. Quel charmeur, hein, ce Chris Isaak.
Ah, j'avais l'impression d'être dans les grandes plaines de la Caroline du Nord, aux États-Unis.
Ah, tu aimes bien les États-Unis. Hein.
Ah, je trouve que c'est déjà. Tout est multiplié par 10.
XXL.
C'est vrai que c'est des gens qui sont très ouverts, moi, je trouve.
C'est vrai, c'est vrai. Mais tu parlais de ces, tu peux imaginer ces grandes plaines,
ah oui, oui,
avec des bisons, tout ça.
Ah ouais, ouais, les rocheuses derrière. Ouais.
Et alors, tu as aussi une association, je crois.
Bah oui, parce que voilà, je suis vice-président d'une association qui s'appelle Strasbourg Habitier USA, qui a maintenant pratiquement 12 ans. Et notre but, c'est de permettre aux jeunes enfants qui sont de la quatrième à la terminale, d'une part, de faire des stages de théâtre avec des animateurs américains qui viennent exprès au mois d'août.
Qui viennent exprès à Strasbourg.
À Strasbourg, pour permettre de faire des petits stages de théâtre. Tu vois, un enfant en classe, quand il a quelques difficultés, il a toujours peur de lever le doigt, de dire « je ne sais pas ». Parce que, bon, aujourd'hui, les profs n'ont plus le temps de s'en occuper. Donc nous, on va prendre le relais et on va le faire sous forme de jeu, sous forme de théâtre, de musique, pour que l'enfant n'ait plus peur de parler. Et à côté de ça, on va organiser des séjours aux États-Unis. Alors, entre autres, on va en Caroline du Nord, à Wilmington, on va à Denver dans le Colorado et en Floride aussi, où on va mettre les enfants en immersion totale dans des familles qui sont prêtes à les accueillir comme leurs propres enfants. Ce qui va enlever cette crainte, cette peur de parler. Et eux, ils sont là pour t'aider. Et en fin de compte, les enfants, quand ils reviennent, ils sont motivés, ils n'ont plus peur et ils y vont.
Voilà. Et ils retiennent un peu des mots, ils
parlent
l'anglais.
Oui, ils parlent plus facilement, ils s'ouvrent plus facilement. Parce que le problème, c'est que quand on a peur de s'exprimer en anglais, on n'y va pas. Une fois qu'on a enlevé cette peur, on se lance, on se lâche et on s'ouvre. Et là, c'est beaucoup plus facile.
Et les enfants, quand ils sont là-bas, ils n'ont pas du Heimweh, de Strasbourg.
Alors, je dis souvent, et ça, j'ai eu l'expérience parce que ma plus jeune fille a participé à des voyages. C'est-à-dire que la plupart du temps, les enfants qui n'ont jamais quitté leur maison, leur famille, ils pleurent en partant, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'ils vont quand même de l'autre côté de l'Atlantique. Hein, je veux dire. Et pendant 15 jours...
Pas rien. Ouais.
Et forcément, quand ils reviennent, ils ont pleuré une deuxième fois parce qu'ils vont quitter une deuxième famille. Ouais. Tellement, si tu veux, les gens sont prêts à les accueillir dans le but de l'association et vraiment à bras grands ouverts, ils les considèrent vraiment comme leurs enfants. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a eu notre premier mariage.
C'est pas vrai.
D'enfants qui se sont, d'un Alsacien et d'une Américaine, qui se sont connus par le biais de l'association.
C'est pas vrai,
et ils se sont mariés l'année dernière. Et c'est notre premier couple mixte.
Et alors, ils habitent où, en France?
Alors,
ou aux
ils ont habité pendant quelques temps en France. Et puis maintenant, Ellie, il est allé aux États-Unis aussi pour rejoindre un peu la famille de son épouse. Et puis, il est architecte, donc il a la possibilité.
Donc, il n'est pas cuisinier.
Non, lui, il n'est pas cuisinier. Mais bon, voilà, ce sont des belles aventures, de belles histoires, et tous les enfants reviennent ravis de ces voyages, quoi.
Ouais, partir, c'est apprendre.
Mais naturellement, hein, et puis il n'y a que comme ça qu'on arrive à évoluer et puis à grandir, quoi.
Et tu les accompagnes à chaque fois ?
Alors, pas à chaque fois, mais là, maintenant que je vais avoir un peu plus de temps, je vais certainement, encore une fois, aller faire un ou l'autre voyage avec eux, oui.
Oui, mais tu me parles de retraite, mais tu t'ennuies pas, j'ai l'impression. Tu fais 50 000 choses.
Oui, mais bon, on m'a éduqué à toujours être là pour les autres, à transmettre et à partager le peu que je sais. Donc, je le fais, d'une part avec plaisir.
Mais en fait, Alain, tu n'as pas travaillé que dans les grands restaurants. Après, tu es parti ailleurs, pas oui. Loin du Haut-Marché-Gare. Qu'est-ce que tu as fait là-bas pendant de nombreuses années ? Raconte-moi un peu.
Écoute, le hasard de la vie, c'est que mon épouse, quand je l'ai rencontrée, elle faisait des études de médecine. Et à un moment donné, se posait la question, que faire ? Alors, je me suis dirigé vers... parce que mon épouse, je la considère un peu comme l'Albert Schweitzer au féminin.
Oh, c'est beau, ça.
Elle est totalement dévouée à ses patients. Elle est passionnée déjà par son métier. Et donc, je ne la voyais pas me rejoindre dans un restaurant. Elle n'était pas faite pour ça. Alors moi, je me suis dirigé d'ailleurs dans un premier temps chez Soprolux en tant que commercial pour être de l'autre côté de la barrière où j'ai exercé ce métier-là chez Soprolux pendant 6 ans. Et quand ma deuxième fille est née, je me suis dit bon, on va pas laisser nos enfants dans une crèche ou dans une garderie toute la journée. Je vais me diriger vers les fruits et légumes. Et donc, connaissant bien Jacques Wirman, le PDG de l'entreprise, je lui ai exposé mon projet. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Viens chez moi, il y a une place pour toi, pour t'occuper de la restauration un peu exigeante, les étoilés, et ainsi de suite. Et ça fait pratiquement 27 ans que je travaille maintenant chez SAPAM, et en charge de la restauration étoilée, de la sélection des produits un peu spécifiques, comme les agrumes.
Ça veut dire quoi, un produit spécifique?
Ce sont par exemple les agrumes de la maison Bachès, qui sont des agrumes comme les yuzu, les mains de Bouddha, les calamansi, enfin tout un tas de variétés.
Je comprends pas ce que ça veut dire, c'est du langage
Mais ce sont des agrumes vraiment exceptionnels.
Mais c'est une banane
Comme un citron.
Ah, c'est comme un citron ou un pamplemousse, quoi.
Voilà, c'est la famille des agrumes.
D'accord.
Qui sont cultivés à Euse dans les Pyrénées.
D'accord.
Et c'est vraiment
les Rolls Royce. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on les mange pas ?
Si. Et tout se mange, de la peau, du zis, du zeste, du jus, enfin tout.
Mais c'est pour les pâtissiers, pour faire
pâtissiers,
des gâteaux. Pâtissiers,
cuisiniers. J'ai même eu l'occasion de créer une pizza avec une pizzeria à l'époque éphémère, avec une main de Bouddha, avec une pizza avec un peu de poisson, coquillage, et en sortant, juste râper un peu de main de Bouddha pour apporter ces notes d'agrumes un peu spécifiques.
Et ça, dans le plat, on le...
En plus, l'agrume est un exhausteur de goût. Donc forcément, ça va t'apporter des saveurs différentes et un peu de fraîcheur. J'ai même fait des bagels au feu de légumes à la fin, juste en sortant, on zeste un petit peu de...
Sans viande ?
Sans viande, que du légume.
Avec de légumes ?
Que du légume, mais fait de la même façon qu'un bagel au feu.
Et alors, SAPAM, 28 ans chez SAPAM, tu commençais très tôt le matin, j'imagine.
Oui, il y a des périodes où je commençais, c'était un choix, puisque j'essayais de régler le problème en amont, dans la sélection des produits, dans le choix, parce que les produits frais, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc, connaissant un peu les cartes des différents chefs, je pouvais modifier le produit qui n'était peut-être pas conforme à ce qu'exigeait le chef. Mon métier, en fin de compte, ça a été d'être les yeux et les mains de tous ces chefs.
Waouh, c'est beau ça.
Parce que comme eux, ils ne pouvaient pas se déplacer pour sélectionner le produit, ils me confiaient cette mission-là. Et c'était un réel plaisir de pouvoir sélectionner pour des Pascal Bastien, des Yannick Germain, des François Bord que tu as eu récemment,
ouais,
et ainsi de
suite.
Voilà, ils me proposent leur carte et je leur sélectionne les produits. Et ça m'arrive aussi souvent d'aller passer un matin chez des producteurs locaux, mettre mes bottes, aller dans la terre, voir dans quel état était...
Renifler, hein, une...
Oui, oui.
Un poireau, par exemple.
C'est important de savoir dans quel état est la terre, pour savoir comment va être le produit. Parce que c'est tout ça. Le respect du producteur commence déjà là, à comprendre pourquoi il fait cultiver ça, comment il le cultive, sous quelles conditions. C'est une histoire qu'on raconte aussi au chef. Quand un produit a été cultivé dans telle terre, à tel endroit, pendant telle période, eh ben, on a le résultat qui est comme ça. Et ça va apporter ces notes-là. Et donc le chef, quand il a toutes ces informations-là, va pouvoir lui donner vie, lui raconter une histoire. Et le client, quand il va le manger, ben, il aura tout compris, quoi.
Ben oui, que serait la gastronomie sans nos producteurs ?
Ben, naturellement. Et on est un trait d'union entre le producteur et le chef qui va le cuisiner.
Mais comment tu connais tous ces produits ? Tu vas quand même pas aller dans le sud chercher des citrons. Est-ce que tu prends ta voiture ou en avion pour aller voir des producteurs sur place, là en bas dans le sud ?
Ça m'arrive.
Ou en Corse, aller voir les mandarines
À Nice, je suis allé voir notre producteur de salade, d'herbes, de fleurs aromatiques et ainsi de suite. À Menton aussi, les producteurs qui cultivent ça, je suis allé voir leur ferme pour savoir dans quel état elles sont. Parce que c'est bien beau de me faire confiance, mais il faut aussi que je puisse avoir de la crédibilité. Donc, si je ne connais pas les producteurs, leur vie, c'est difficile.
Oui, je comprends.
Tu vois, je ne vends pas une boîte de conserve, je vends un produit qui est vivant, un produit qui a eu de l'attention. Il y a eu des gens qui se sont, ils ont passé des heures et des heures à cultiver ce produit-là. Eh ben, la moindre des choses, c'est de le retransmettre à d'autres ailleurs. Quoi.
Mais enfin, là où tu travaillais, c'était ouvert qu'aux professionnels et pas au grand public.
Non, on est grossiste à la base. Hein. Après, je dis souvent, moi maintenant, si je vais dans un magasin et que je rencontre, même dans une grande surface, le responsable de rayon, je dis, tiens, j'ai entendu qu'on pouvait trouver ça à Strasbourg, est-ce que vous pouvez me le procurer ? Et ces grossistes-là, ces revendeurs, peuvent venir vers la SAPAP pour dire, voilà, j'aurais besoin de ça et ça.
Et que serait en fait, j'ai aussi entendu que de temps en temps, il fallait manger un fruit le matin ou avant un repas. Alors, est-ce que ça ne coupe pas l'appétit, ça ?
Alors, ça le coupe un peu, mais tu sais, André, c'est un très bon moyen pour faire un régime. Parce que ton cerveau, il est programmé pour manger à une certaine heure, une entrée, un plat salé et ensuite le dessert. Donc forcément, si tu commences par le sucré, bah ton cerveau va dire, tiens, on est déjà à la fin du repas, je ne vais pas être obligé de me resservir trois fois l'assiette. Donc je vais manger modérément.
Et ça coupe pas l'appétit, ça tu...
Non, ça le coupe pas. Alors naturellement, il faut pas juste après avoir mangé une pomme ou une clémentine ou quelque chose, tout de suite attaquer. Je veux dire, tu prends ton fruit sur les coups des 11h, 11h30, et puis après, à midi, tu passes à table, mais tu auras moins l'intention de te gaver.
Et c'est quoi cette publicité, manger 5 fruits par jour ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Ah ben moi, je suis même pour plus, hein.
Plus, c'est-à-dire tu manges quoi comme fruit le matin, toi ?
Moi, je mange une clémentine, une banane, une orange, un pamplemousse, une pomme.
Avant ton petit déjeuner ?
Non, en petit déjeuner, quoi.
Ah, tu te fais des petits
quartiers
comme ça ?
Voilà, avec un petit thé vert, et puis voilà. Quoi.
Oh, c'est magnifique, ça doit être beau
aussi.
Le matin chez
toi. Bah, c'est parfumé aussi.
C'est parfumé.
Hein.
Mais, oui, parce que tous ces produits-là, tu les connais, tu connaissais les producteurs, donc c'est du bon, quoi.
Et puis, comme dit, j'ai été éduqué à l'époque avec Alain Passard, déjà à la passion d'utiliser le légume comme plat principal. Ensuite, avec Antoine, on a aussi énormément mis en valeur les producteurs locaux avec les garnitures et ainsi de suite. Et puis, les salades, c'est pareil. Antoine me le disait toujours, tu sais, Alain, les salades, il faut qu'il y ait de la musique. Il faut que ça chante dans la bouche parce qu'une feuille de laitue... une feuille de batavia, ça n'a pas beaucoup de goût. Mais c'est tout le reste que tu vas y rajouter. Un petit peu d'oignon nouveau, une petite échalote, un peu de ciboulette, une cerfeuille qui aura cette note anisée, une huile d'olive bien particulière, un peu végétale, un petit vinaigre, un jus de citron. Voilà. Et puis, une fois en bouche, bah, on a l'impression d'avoir une symphonie, quoi.
C'est beau comme tu parles. Et dis-moi, tes amis doivent être heureux quand tu les invites à manger. J'imagine que tu as une belle tablée bien décorée, des bons produits.
Ils ont plus de plaisir à venir manger à la maison que de m'inviter. Parce qu'ils se mettent toujours une pression de fou. Quoi.
Ah oui, j'imagine.
Alors que je leur dis, mais faites ce que vous savez faire, mais faites-le avec le cœur. Moi, je suis prêt à manger juste une petite quiche ou un tarte avec une salade, mais du moment que ça a été préparé avec amour.
Avec amour, ouais.
Voilà. Je n'ai pas besoin d'aller manger de la haute gastronomie chez les gens. Je veux dire, ce n'est pas la peine.
Tu y vas quand même de temps en temps, j'imagine.
Alors, je vais dans
que
des...
tes anciens chefs t'invitent.
Voilà, ouais. C'est un plaisir, toujours, à chaque fois, quoi.
T'as déjà été chez Antoine Westermann dans le,
à Paris,
le Cocorico,
oui,
le Coco,
ah oui, pas. Oui. On avait même fêté la remise de diplôme de ma fille quand elle avait été à Paris. On avait réservé chez Antoine et il nous avait servi, j'ai encore le souvenir, de cette volaille de Bresse rôtie tranquillement. Wow. Mais tu sais qu'à l'époque, même déjà au Burizel, on travaillait donc le dimanche. Et le dimanche à midi, la plupart du temps, c'était poulet rôti. Et exprès, parce que dans le poulet rôti, tu vas récupérer tous les sucs, ça va te faire un bon jus de volaille. Et ces jus de volaille-là, on pouvait l'utiliser pour le restaurant. Mais voilà, c'était toujours le produit.
Mais tu parles de ce poulet de Bresse, mais on a aussi une belle poule en Alsace, là, celle noire.
Oui, la poule noire d'Alsace, ouais, c'est exceptionnel.
C'était une
aussi.
Poule qui avait quasiment disparu.
Oui,
parce que
qui
je
a
crois
été remis au goût, au goût,
parce
au goût du jour.
Qu'elle ne pondait pas assez d'eux, je crois, donc ils l'ont supprimée.
Et puis elle a quand même une caractéristique, c'est que la rôtir entier, ce n'était pas jouable, parce que la cuisse étant très ferme, elle prend plus de cuisson que la poitrine. D'accord. Donc, alors moi je sais que j'ai eu l'occasion d'en travailler un peu là ces derniers temps parce que on voulait me faire goûter et moi je l'ai travaillé en ballotine et j'ai mis la poitrine à l'intérieur et les cuisses à l'extérieur, ce qui a permis qu'au moment de rôtir, le temps de cuisson, le temps que la poitrine soit confite correctement, la cuisse était rôtie tranquillement quoi.
Quand tu fermes les yeux maintenant et tu penses à un plat que ta maman te faisait, que tu aimais par-dessus tout, c'est quoi ta Madeleine de Proust?
Alors, elle savait très bien faire la tourte et ça...
Ouais, tu en as déjà parlé tout à l'heure, ouais.
Mais quand elle nous faisait un repas barquaire avec ce casseler qui a été poché et les rugbragadi où il fallait pratiquement autant de beurre que de pommes de terre...
Oui, c'est ça, le rugbragadi, c'était une
tuerie. Cuit dans la cocotte en fonte.
Ah ouais, c'est une tuerie.
Alors, à l'époque, dans sa famille, c'était cuit dans la braise encore du fourneau. Mais c'est vrai que quand c'était confit dans la cocotte en fonte et quand elle ouvrait le couvercle...
Waouh, les odeurs qui en sortaient, c'était génial.
Ah ouais. Et pourtant... Tu vois, tu parlais, c'est juste une pomme de terre.
Ouais, c'est ça, mais il faut savoir la cuisiner, après la
voilà.
Couper, la mettre
en. Et puis
en
après, moi, ça me raconte toute une histoire.
Oui, c'est ça, ouais.
C'est la mémoire de ça, quoi.
Ouais, oui. Bah écoute, Alain, j'étais très, très heureux de te recevoir à ce micro. Là, on parlait beaucoup de gastronomie, de bonnes choses. C'est normal, on est bientôt à table, à midi. Hein. Donc, il fallait parler de tout ça. En tout cas, je te remercie et je te souhaite beaucoup de bonheur avec ta petite fille, une très belle retraite et continue, ouais. Ne change rien, reste comme tu es. Tu es un garçon vraiment sympathique et charmant. Mets-nous un peu la musique de fin, là. Remis-nous pour terminer la baie en musique.